pense que tout le monde veut savoir quel est le sens de la vie, quel est le but de la vie, quelle est la condition humaine, ou quel est le sens de la condition humaine, parce qu'on subit la condition humaine, mais pas nécessairement de façon réfléchie. Alors d'abord, la foi bahaï nous dit la chose suivante. La foi bahaï nous dit que l'homme, l'être humain, chaque individu, est créé par Dieu dans un état inachevé, où je peux dire de la façon suivante, on est créé dans un état d'imperfection, mais avec le potentiel de la perfection. Donc, en étant, si vous voulez, les animaux et Dieu, ou les prophètes, les animaux sont créés dans un état d'imperfection, mais sans le potentiel pour la perfection. Il ne peut jamais devenir autre qu'un animal, n'est-ce pas? Et évidemment, Dieu et les prophètes existent dans un état de perfection achevée. C'est en tout cas l'enseignement de la foi bahaïque que les manifestations de Dieu, comme on les appelle, les grands fondateurs des religions, préexistent leur vie sur la terre et sont créés dans l'autre monde dans un état de perfection achevée. Autrement, ils ne seraient pas capables de nous enseigner, de nous instruire, s'ils venaient au monde aussi ignorants que nous, n'est-ce pas? Ça ne serait pas possible. Donc, nous sommes, comme Abdu'l-Bahá le dit, l'apogée de la création matérielle, c'est-à-dire l'être humain est la plus haute chose dans le monde matériel, parce que nous sommes de tout ce qu'il y a dans le monde de création, la seule créature qui a ce potentiel de perfection. Et nous sommes au début, si vous voulez, du monde spirituel, parce que au moment de notre naissance, de notre création, notre spiritualité, si vous voulez, est potentielle. Ce n'est pas actuel, c'est potentiel. Donc, on est, si vous voulez, au début du monde spirituel et à l'apogée du monde matériel. Ça, c'est notre condition selon les écrits bahaïs. Alors, qu'est-ce que c'est la transformation spirituelle ou la transformation personnelle? C'est tout simplement la réalisation de ce potentiel. C'est le processus par lequel nous réalisons, nous actualisons ce potentiel qui est en nous. Et c'est une tâche qui commence dans cette vie, mais aussi qui continue pendant toute l'éternité. Donc on dit que le progrès dans la perfection, dit Baha'u'llah, est sans cesse. Il est infini. Ça ne veut pas dire que c'est illimité, parce que vous pouvez imaginer comme une chose qui croît sans cesse, mais qui est quand même approche une limite qui n'outrepasse pas. Parce qu'on ne devient jamais, nous, Dieu, n'est-ce pas? On est quand même limité, mais limité dans notre niveau d'existence, mais pas dans notre potentiel pour le développement, qui est infini. Et donc, nous avons toute l'éternité pour cela. Nous avons pas seulement cette vie, mais une vie immortelle, parce que les écrits bahaïs nous disent que notre âme, même si notre corps meurt et retourne à la poussière, notre âme est spirituelle, c'est créé par Dieu, et ce n'est pas composé d'éléments, ce n'est pas sujet à la décomposition. Elle est éternelle et l'âme est le siège de nos capacités spirituelles et le siège de ce potentiel spirituel dont j'ai parlé. Alors, Baha'u'llah nous dit, j'ai quelques citations ici. D'abord, il nous dit que le but de notre existence, le sens donc de la vie, si vous voulez, c'est le développement de ce potentiel spirituel en nous et dans les autres. C'est-à-dire, on cherche à développer notre propre potentiel spirituel et en même temps, on cherche à être des instruments, des serviteurs, si vous voulez, pour développer le potentiel des autres. Et ces deux choses vont ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas d'égoïsme dans la spiritualité. Comme Jean-Claude a justement lu, que l'amour c'est comme l'eau, si ça ne circule pas, ça stagne. Donc on ne peut pas garder sa spiritualité pour soi-même. Si on essaie de faire ça, on perd sa spiritualité, ça stagne. Donc, servir les autres et se servir sur le plan spirituel, je ne dis pas le plan matériel, mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas perdre quoi que ce soit en servant les autres. Okay. Et vous pouvez perdre en ne pas servant les autres. Donc, ce processus de développement est le but de notre existence. C'est même, dit Baha'u'llah, le but de toute la création. Parce que, comme j'ai dit, dans toute la création, l'être humain est la seule chose qui subit un processus de développement irréversible. Dans le monde matériel, tout ce qui progresse régresse un jour, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tout se développe jusqu'à un plus haut point, et ensuite ça meurt, ça dégrade et ça meurt. C'est la loi universelle de toute chose matérielle. C'est ce parabole inversé, si vous voulez, la naissance, la croissance, le développement jusqu'au point culminant, et le déclin, finalement la mort. Donc, dans le monde matériel, il n'y a pas de progression qui ne soit pas suivi par tôt ou tard, ça peut être longtemps, n'est-ce pas? Le soleil va s'éteindre un jour, mais ça va prendre quand même des milliards d'années, etc. Mais c'est quand même la loi universelle que toute chose matérielle passe par ce cycle de naissance, développement, maturité et déclin, et finalement la mort. Tandis que l'âme humaine, dit Baha'u'llah et Abu Baha, connaît un progrès sans rétrogression dans l'autre monde. Alors, voici ce que dit Baha'u'llah. Par les enseignements de cette étoile de matin de la vérité, ça veut dire la manifestation de Dieu, tout homme progressera et se développera jusqu'à ce qu'il parvienne à ce stade où il pourra manifester tout le potentiel, voilà ce mot potentiel, des forces dont son être intime et essentiel a été doté. Alors qu'est-ce que c'est son être intime et essentiel? C'est son âme, c'est cette âme immortelle, ok? C'est une métaphore pour l'âme, l'être intime, ok? Ce qui est en nous, n'est-ce pas? Alors donc, il dit, je veux relire ça parce que c'est par les enseignements, donc des manifestations, tout homme, donc chacun de nous, chaque être humain, progressera et se développera, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à ce qu'il parvienne à ce stade où il pourra manifester, donc actualiser, tout le potentiel des forces dont son être intime et essentiel a été doté. Donc notre destinée, c'est de progresser jusqu'à ce qu'on manifeste, on actualise, on réalise tout le potentiel qui est en nous. C'est à cette fin même qu'en tout âge et dans chaque dispensation, les prophètes de Dieu et ses élus ont paru parmi les hommes et ont montré un pouvoir tel que ne pouvait venir que de Dieu, et une puissance telle que seul Dieu pouvait la révéler. Donc, la seule raison que Dieu a créé le monde et a envoyé les prophètes et tout le bazar, c'est pour que chaque homme puisse progresser jusqu'à ce qu'il réalise son potentiel. Il dit, c'est à cette fin même qu'on tutoie, etc. Maintenant, la question donc se pose, ok, notre but, c'est le développement de ce potentiel. Quelle est la nature de ce potentiel et comment est-ce qu'on le développe? Évidemment, c'est la prochaine question. Alors voici ce que dit Baha'u'llah. Ces énergies dont l'étoile du matin de la bonté divine et la source de la direction divine ont doté l'essentielle réalité de l'âme, donc encore une fois, il parle des capacités de l'âme, ne sont en lui que l'attente potentielle, comme est l'attente la flamme dans la bougie et comme les rayons de la lumière sont en puissance dans la lampe. L'éclat de ces énergies peuvent être obscurcis par les désirs d'ordre terrestre, comme la lumière du soleil peut être cachée sous la poussière et les impuretés qui recouvrent le miroir. Donc, petit avertissement, cette progression n'est pas automatique. On peut le retarder, on peut l'obscurcir, par exemple, les désirs, ce qu'il appelle les désirs terrestres. À comprendre, bien entendu. Mais logiquement, il s'agit de savoir qu'on peut quand même déjouer ce progrès. Il dit, ni la lampe, ni la bougie ne peuvent de s'allumer d'elles-mêmes. Et le miroir ne saurait davantage par ses propres moyens se débarrasser de ses souillures. Donc un miroir a le potentiel de refléter le soleil ou la lumière, mais si le miroir est souillé, eh bien le miroir ne peut lui-même se défaire de cette souillure. Il faut une force. Il est évident que si on ne l'allume pas, la lampe ne l'éclairera pas, et que jusqu'à ce que soit enlevée la poussière qui le recouvre, le miroir ne pourra refléter le soleil. Alors, donc, ça soulève le premier élément, qui est la grâce. Qui est la grâce. C'est-à-dire, il faudrait, pour accomplir ce progrès, il faudrait une grâce de Dieu. Il faudrait que Dieu nous gracie en nous aidant ou en enlevant cette poussière. Maintenant, si on restait uniquement avec la grâce, ça pourrait nous amener à une conception passive de ce processus de développement. Cette conception passive est un peu la conception qui est très répandue chez certains prédicateurs chrétiens, comme on écoute à la télévision. C'est le genre de choses, d'abord vous êtes pas simplement des êtres imparfaits, mais vous êtes des êtres maléfiques, parce que le péché originel, n'est-ce pas, ce qui ne fait pas partie de la foi bahaï, mais vous n'êtes pas simplement imparfait et vous avez besoin de développer, mais vous êtes condamné, vous êtes né dans le péché. Et c'est seulement Jésus qui peut vous sauver. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Ce n'est pas par vos actes, ce n'est pas par vos efforts que vous allez vous sauver. C'est seulement la grâce de Jésus. Et vous n'avez qu'accepter, comme ils disent, ce don de Dieu. Que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Vous acceptez ça, vous êtes sauvés. Vos péchés sont remis. Donc, dans cette conception, la salut est un processus passif où le rôle de l'homme consiste à accepter la grâce de Dieu. Donc il a la grâce de Dieu qui vient par Jésus, par exemple, et nous recevons cette grâce, mais cette réception doit être un acte conscient, mais c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter cette chose-là. Mais Baha'u'llah nous dit qu'il a un autre aspect de la chose que simplement une acceptation passive n'est pas suffisante non plus. Écoutez ce qu'il dit. Et maintenant, en ce qui concerne ta question touchant la création de l'homme, sache que sa nature est l'ouvrage de Dieu. Bon, nos âmes sont créées par Dieu, le gardien suprême, l'être subsistant par lui-même. Il a fait d'avance à chacun sa part. Donc, chacun a une potentialité qui lui est propre et qui est fixée par Dieu. Donc, le potentiel, ce n'est pas une vague chose. Ce potentiel existe d'avance, c'est créé par Dieu. Donc, on n'a pas à gagner ce potentiel. On doit l'actualiser, mais pas le gagner. Il est là. Il fait partie de notre héritage, de notre patrimoine spirituel. Il a fait d'avance à chacun sa part, une part décrétée par sa puissance et dont l'exacte mesure est consignée dans ses tablettes puissantes et préservées. Mais la manifestation du potentiel dont chacun a été doté dépend de l'exercice que chacun fait de sa propre volonté. Alors, donc, c'est aussi un enseignement de la foi Baha'i que sans effort de notre part, sans l'exercice de notre volonté, nous ne pouvons pas réaliser ce potentiel. Et j'avais un autre livre. Merci, vous êtes gentil. Alors, juste pour renforcer à quel point c'est important, c'est un petit passage de Shoghi Effendi, l'interprète des écrits de Baha'u'llah et Abdu'l-Baha. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver cette citation en français. Je vais la lire en anglais et je vais faire une traduction au pif en français. Mais ce n'est pas long, donc vous n'aurez pas à subir. Personal effort is indeed a vital prerequisite to the recognition and acceptance of the cause of God. L'effort personnel est en effet un prérequis vital à la reconnaissance et à l'acceptation de la cause de Dieu. OK? Donc, ce n'est pas simplement une chose passive. OK? Parce qu'il dit, l'effort personnel est un prérequis vital et essentiel, donc inéchappable, inéluctable. No matter how strong the measure of divine grace, peu importe l'abondance de la grâce humaine, unless supplemented by personal, sustained, and intelligent effort, it cannot become fully effective and be of any real and abiding advantage. Alors, il dit, peu importe l'abondance. But yeah, I was looking for it all through there, and I couldn't find it. Okay, have you got it? Okay, thanks. So why don't you read it in your douce voix? It's, on here it's page 6. It's, I can find it if you want. Okay, here it is. So that's the one time I didn't ask you where the book was. Okay, c'est ça. L'effort.
Okay. Non. L'effort personnel est en fait une nécessité vitale pour la reconnaissance et l'acceptation de la cause de Dieu. Peu importe l'abondance de la grâce divine, si elle n'est pas soutenue par un effort personnel, constant et intégré, devenir pleinement efficace, ni être d'un bénéfice réel et durable.
Et en anglais, c'est même plus fort parce qu'il dit « of any real and abiding advantage », ça veut dire ça ne peut être d'un, d'un avantage quelconque. Que ça n'a aucun effet durable. Oui. Alors, donc ça c'est très fort, n'est-ce pas? Ça c'est très fort. Donc ça dit que non seulement il faut de l'effort, mais sans un effort soutenu, tu lis les trois caractéristiques.
Soutenu, elle n'est pas soutenue par un effort. Si elle n'est pas soutenue par un effort personnel, constant et intelligent.
Donc, personnel, ça veut dire que c'est moi-même qui dois le faire, c'est-à-dire. Je ne peux pas vivre de votre effort, n'est-ce pas? Je peux prendre vous comme exemple, ou je peux m'inspirer de vous, vous pouvez m'aider, vous pouvez me conseiller, mais finalement, l'effort doit être personnel. Ça peut être bon, constant, donc un coup héroïque ne suffit pas, n'est-ce pas? Une grande... ce n'est pas le romantisme, n'est-ce pas? La spiritualité, ou on tue le dragon, et puis voilà, c'est, tout est fait. Et puis, intelligent, donc il faudrait qu'on se serve de... C'est pas simplement la quantité d'efforts, mais la qualité aussi. Ok? C'est pas simplement la quantité, mais c'est la qualité aussi. Alors, donc, la question que je pose et que je voulais mettre devant vous ce soir, c'est justement comment comprendre ces deux choses. C'est, d'une part, on nous dit que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas faire du progrès. Ce qui veut dire, en fait, si on le pousse, ça c'est la première citation que j'ai lue, ce qui veut dire même que sans la grâce de Dieu, on peut faire tous les efforts voulus et on n'avancera pas. Donc, ce n'est pas pour l'intensité de l'effort seul qu'on peut avancer. Et même, il y a un passage d'Abdu'l-Bahá, il y a deux passages que je connais d'Abdu'l-Bahá, où il va même plus loin. Et c'est assez étonnant, en fait, ça va sûrement influencer la psychologie, la science de la psychologie dans l'avenir. Il dit, non seulement on ne peut pas arriver à la spiritualité par l'effort seul, mais essayer de faire par l'effort seul peut conduire à la folie et à des conditions pires. Ça peut empirer la condition. Parce qu'il explique que si on essaie par le refoulement, si on refoule par la volonté, d'une part, ça va sortir de notre part, n'est-ce pas? Donc, si j'ai une tendance à la colère et je refoule ma tendance à la colère, simplement par l'acte de volonté, enfin, sans vraiment soigner la chose, alors ça peut sortir de notre façon, je ne sais pas, par la dépression ou je ne sais pas quoi. Il parle de la folie, c'est pas moi qui ai inventé ça. En tout cas, il dit ça à plusieurs reprises, que non seulement ça ne peut pas réussir, il dit que c'est un peu comme essayer de se réformer par l'effort seul, c'est un peu comme jeter un ballon en haut. Il dit, l'ego de l'homme est comme la gravité. Comme la gravité tire tout à la terre, l'ego de l'homme tire tout vers lui-même. Donc si je jette un ballon vers le ciel, je peux le donner beaucoup d'efforts et l'envoyer très haut, mais tôt ou tard, il va redescendre. C'est l'image qu'il donne. Il dit, par l'effort seul, c'est exactement, on peut provoquer des changements, mais ça ne serait pas des changements durables. Et quand le ballon tombe, ça peut tomber sur notre tête, ou ça peut faire plus de dommages qu'avant d'avoir lancé le ballon. Et il confirme ça. Donc, ce n'est pas un jeu pour les enfants. Ce n'est pas un jeu pour les enfants. Ou en tout cas pour les enfants non avertis. Nous sommes tous des enfants. Et Donc l'effort seul ne suffit pas, et la grâce seule ne suffit pas, comme nous avons vu. Alors comment comprendre ça? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Ok. Pourquoi est-ce que d'une part, il nous a fait avec nos égos et tout ça, de façon à ce qu'on a besoin de sa grâce? Mais sa grâce n'aurait aucun effet durable si on ne fait pas d'efforts. Mais si on fait juste les efforts sans recevoir la grâce de Dieu, ça ne va pas faire non plus. Alors, je voulais juste vous donner le fruit de mes réflexions là-dessus. Ça va être un petit fruit comme une cerise, pas une grosse fruit comme un melon d'eau. Mais je crois, bon, donc ici ce n'est plus Baha'u'llah, c'est mon interprétation personnelle que je vous offre, et puis nous pouvons justement discuter de la question. Mais en m'observant et en observant le processus chez d'autres personnes, je crois avoir compris la chose suivante. Enfin, je vous donne d'abord la clé, pour moi, la citation clé qui m'a amené à voir la chose de cette façon. Baha'u'llah a dit que la chose la plus essentielle pour la réussite de ce processus, c'est la sincérité dans sa mobile. C'est la sincérité de l'intention. Il dit ça, c'est le plus important. Sans ça, on ne réussira pas. Et dans un autre passage, il dit que notre intention doit être l'amour de Dieu. Et il dit une chose très intéressante. Il dit, la même chose, le seul et même acte identique, sera bénéfique si c'est fait par amour de Dieu, et ça peut être maléfique si le même acte, même si c'est un acte d'aider quelqu'un ou quoi que ce soit, est fait par un mobile égoïste. Donc, ce n'est pas l'acte elle-même, les actions, la volonté encore une fois, mais c'est la qualité de l'action et c'est plus fondamentalement la sincérité de l'intention. Alors, moi, je comprends donc de la façon suivante. La grâce de Dieu est toujours là. C'est super abondant, c'est infini. Tous les écrits saints ont dit ça, tous les prophètes, tous les philosophes ont dit ça. La grâce de Dieu est infinie, elle est illimitée. La grâce de Dieu n'est pas limitée. Les limitations ne sont pas... Ça ne fait pas partie de Dieu, les limitations. Les limitations sont humaines. Donc, ça serait inconcevable de dire que Dieu infini, absolu, a une quantité limitée de grâce. Donc la grâce de Dieu est illimitée. Mais Dieu veut notre sincérité. Il veut qu'on apprécie cette grâce. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas... Cette grâce est tellement précieuse qu'il ne veut pas qu'on le prend pour acquis. Si cette grâce était, si vous voulez, trop facilement accessible, comme si j'ouvre le robinet, voilà, j'ai la grâce de Dieu, on viendra très vite à la prendre pour acquis. On ne prendrait pas à sa juste valeur. On dit dans le monde matériel parfois qu'il faut payer cher pour quelque chose pour vraiment le valoriser, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai et c'est pas vrai. Mais l'idée, c'est que si on reconnaît la valeur de quelque chose, alors on est prêt à dépenser pour avoir cette chose. Donc, les efforts que nous mettons sont en quelque sorte comme le prix qu'on paye qui démontre la sincérité de notre intention de recevoir la grâce de Dieu. Donc, je pense que la dynamique entre nous et Dieu est un peu comme le suivant. Nous faisons des efforts, et encore des efforts. Parfois, nous réussissons, parfois, on a des échecs, on devient découragé, on devient encouragé, etc. C'est tout un processus. Mais on fait des efforts et on fait des efforts jusqu'à ce qu'on purifie son intention. Donc on fait un premier effort, on lit des prières, on fait des actes de service. Et puis après, on se dit, mais voilà, il avait quand même beaucoup plus d'égoïsme là-dedans que je pensais. En rétrospective, on peut voir ça. Donc on peut avoir l'impression que son intention était pure, et peut-être que l'intention était le plus pure possible à ce moment-là dans notre développement. Peut-être on était sincère dans le sens qu'on faisait le mieux qu'on était capable à ce moment-là. Mais Dieu exige qu'on fasse des efforts, et encore des efforts, des grands efforts, comme on a lu dans un effort personnel, continu ou constant et intelligent. Et le fait de faire ces efforts purifie notre intention. Même le fait d'avoir des échecs, d'essuyer des échecs et tout ça, parfois même les échecs peuvent nous aider plus que des réussites. Parce que quand on échoue, généralement on sait pourquoi on échoue. Mais quand on réussit, on peut ne pas savoir pourquoi on réussit. Peut-être on a réussi parce qu'un ami a prié pour nous ce jour-là, n'est-ce pas? Donc je ne dis pas qu'il faut juste chercher des échecs, mais je veux dire, si c'est vraiment le développement spirituel que nous voulons, nous ne devons pas, à mon avis, avoir peur des échecs, hein? Parce que les échecs nous donnent souvent plus de renseignements sur la pureté de notre intention que les réussites. Donc, je laisse avec ça, c'est-à-dire je propose comme solution à ce dilemme l'idée que on est sauvé que par la grâce de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la grâce de Dieu qui peut nous sauver. Mais Dieu exige que nous fassions des efforts. Parce que le fait de faire des efforts purifie notre intention. Et quand notre intention est suffisamment purifiée, Dieu accepte nos efforts et il produit le changement, c'est-à-dire il actualise une partie de notre potentiel. Mais c'est l'ouvrage de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Autrement dit, je prétends que toute transformation véritable vient de Dieu et seulement de Dieu. Ça ne vient d'aucune façon des agences humaines et pas de notre volonté. Mais Dieu accepte, si vous voulez, de faire ces changements, d'actualiser notre potentiel, de nous transformer, si vous voulez, seulement quand nous avons réussi à purifier notre intention en ayant fait des efforts soutenus, etc. Alors voilà.